Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine Okapi Service. Merci de votre fidélité et merci à ceux-là qui viennent de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Nous allons parler de la traite des personnes, la traite de personnes qu'on appelle aussi l'esclavage moderne. Comment lutter efficacement contre cette pratique en République démocratique du Congo. Nous avons en ligne Madame Cécile Kassanda, coordonnatrice de l'agence de lutte contre la traite des personnes. Madame Cécile, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Des questions et préoccupations par rapport à cette thématique. Le standard est déjà ouvert, n'attendez pas les dernières minutes. Il suffit de composer les 081 890 63 94 pour participer et vous appeler. Nous allons vous inscrire et vous rappeler pour poser vos questions. Bienvenue à tous, à Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
En tout cas, j'étais bien ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos...
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service. Nous parlons à présent de la traite des personnes. Eh bien, la traite des personnes ou l'esclavage moderne est une pratique courante en République démocratique du Congo. Certains compatriotes organisés en réseau ou pas exploitent souvent les femmes et les enfants à des fins pécuniaires. Ils trompent les victimes ou les familles avec des fausses promesses d'éducation ou d'emploi à l'étranger et blablabla. Et ensuite, ils les exploitent en les forçant de travailler comme domestiques, vendeurs des rues, dans les groupes armés ou à pratiquer le commerce de sexe. Quelle est la situation de la traite des personnes en République démocratique du Congo et quels sont les mécanismes mis en place pour lutter efficacement contre ce phénomène? Nous avons en ligne Madame Cécile Kassanda, coordonnatrice de l'Agence pour la lutte contre la traite des personnes. Madame Cécile, encore une fois, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Alors, comment est-ce qu'on peut... Pouvez-vous nous aider à bien comprendre ce que c'est la traite des personnes ou l'esclavage moderne?
Bon, la traite des personnes, c'est le fait de recruter, enlever ou transporter une personne en vue de son exploitation pour avoir un revenu ou un avantage matériel, tout en profitant de sa vulnérabilité ou du fait qu'il est sous votre autorité.
Voilà, donc c'est le fait d'utiliser une autre personne pour se faire de l'argent.
Oui, on peut dire cela, l'exploitation d'une personne par une autre en vue de se faire un avantage matériel ou financier.
Voilà. Et quels sont les genres de traite de personnes qu'on retrouve beaucoup plus dans notre pays? Ou, je veux dire, dans l'ensemble, comment se présente la situation de la traite des personnes en RDC?
Bon, la situation de la traite des personnes en RDC est préoccupante. Elle est préoccupante du fait que plusieurs personnes ne connaissent pas la notion de la traite des personnes. Et de ce fait, certaines victimes, ne se sachant pas victimes de la traite des personnes, ne peuvent rien dénoncer. Elles trouvent que la situation est normale. Mais quelles sont les formes de traite que nous retrouvons régulièrement dans notre pays? Et dans quelle zone où elles sont commises. C'est la plupart du temps, c'est l'exploitation sexuelle qui se manifeste par une prostitution d'autrui ou par un esclavage sexuel. Mmh. Il y a aussi le recrutement forcé des enfants et des adultes souvent mal par les groupes armés pour leur servir, soit des combattants, soit des espions, soit des porteurs de charges, soit aussi des domestiques. Les groupes armés enlèvent aussi les femmes pour l'esclavage sexuel. Il y a l'utilisation des enfants dans les mines et carrières où ces enfants ne perçoivent rien comme salaire, mais une petite prime à la fin de la journée. Il y a la mendicité forcée qui est très vécue dans les grandes villes et grandes agglomérations. On voit les personnes qui traînent des enfants sur les grandes artères pour demander de l'argent. Et eux, soit ils sont là comme aveugles, soit comme handicapés, soit ils sont assis quelque part et attendent qu'on leur apporte l'argent. Il y a le travail forcé et l'esclavage domestique. Le travail forcé et l'esclavage domestique, souvent dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos entreprises, nous faisons travailler les gens tant qu'ils connaissent leur salaire ou pour des petits salaires minables. Et ces personnes ne connaissent pas les heures de travail. Dans nos maisons, les personnes que nous appelons bonnes, elles sont bonnes à tout faire. Elles s'occupent des enfants, elles font le ménage, elles font le nettoyage, elles font le repassage, elles font même les jardins ou les potagers. Et ces personnes n'ont pas d'heure fixe pour le travail. Il y a aussi le mariage forcé. Et le mariage forcé, c'est commun un peu partout. Soit ce sont les parents qui forcent leurs filles à épouser telle, puisque nous avons déjà eu l'argent de sa part, soit ce sont des miliciens des groupes armés qui commettent des rapes et amènent les femmes dans la brousse pour les marier de force, soit pour les exporter, toujours en vue des mariages forcés, à l'extérieur du pays. Il y a aussi la prostitution d'autrui que nous, les Congolaises, je parle des femmes et des Congolais, les pères, donc les pères et les mères, qui envoient leurs enfants sur la route pour aller faire la prostitution. Et le fruit de la prostitution, elles rapportent ça à leurs parents. Mmh. Et on dit fièrement, non, kakaye mouto azo songa biso. Mais elle ne travaille pas, mais elle vous aide avec quoi? Donc le fruit de la prostitution. Je peux dire, voilà quelques-unes qui sont très répandues dans notre pays. Il y a aussi la vente d'organes qui se fait par-ci, par-là. Et ces derniers temps, je pense que vous avez suivi la situation dans la ville de Lubumbashi, où les enfants sont enlevés aux alentours des écoles. Et il y a une fillette qui a parlé d'un carton où il y avait des cœurs des gens. Heureusement qu'elle s'est enfouie avec ses jeunes frères et sœurs. Il y a aussi cela qui se commet dans plusieurs villes, mais qui ne sont pas connues. C'est pour ça que l'agence a commencé une campagne de sensibilisation dans la ville de Kinshasa. Et cette campagne va se poursuivre dans les provinces jusqu'à ce que nous puissions couvrir toute la République, en privilégiant les zones les plus touchées. Et ces zones les plus touchées...
Quelles sont ces zones les plus touchées?
Donc, ce sont les provinces frontalières. Vous savez que notre pays partage la frontière avec 9 pays. Dans ces frontières, donc dans les provinces frontalières, je peux citer, en partant de la province de Tanganyika, de Haut-Katanga, la province du Lualaba, la province du Nord Kivu, du Sud Kivu, l'Ituri, Owele, Bazuele, la province du Congo central, la province, la région du Kasaï, la province, la ville-province de Kinshasa, ce sont les zones les plus touchées.
Voilà, il y avait même en RDC à un certain moment où je pense que la loi est toujours en vigueur, où on a interdit l'adoption des enfants parce qu'il y a des réseaux organisés, des gens qui sont à l'étranger, qui viennent chercher des enfants, qui vont dans des familles. Non, on va aider vos enfants, on va les adopter, ils vont étudier en Europe, etc. Et puis les familles donnent les enfants, on les adopte, mais arrivé de l'autre côté, les enfants sont utilisés comme des esclaves sexuels.
Oui, c'est une forme qui était très répandue. Heureusement que les autorités congolaises ont pris cette mesure de suspendre toute adoption internationale. Mais il y a un problème qui se pose au niveau national, puisqu'il y a des adoptions qui continuent, donc qui se font localement. Et ces personnes qui adoptent les enfants, dès qu'ils ont les papiers en bonne et due forme des enfants adoptés qui deviennent leurs enfants, leur but est de toujours les vendre. Il y a aussi des enlèvements dans les villages, des enfants qu'on enlève et qu'on vient exploiter. Et ça, c'est très répandu dans la région du Kasaï, donc le Grand Kasaï.
Et là-bas, dans le Grand Kasaï, c'est quelle forme d'exploitation qui est beaucoup plus enregistrée?
Bon, comme c'est une zone minière, nous avons l'utilisation des enfants et des femmes dans les mines artisanales. Il y a aussi les enlèvements des enfants dans les villages pour venir avec dans la ville de Kinshasa les initier. Si ce sont des jeunes garçons, des petits garçons, on les initie au vol, à des petits vols et à la mendicité. Si ce sont des filles, on les initie à la prostitution. Et après, on traverse le fleuve Congo pour les acheminer au Congo-Brazza, au Gabon et ainsi de suite.
Voilà, donc ce sont là les différentes formes de traite des personnes qu'on retrouve dans notre pays. Alors, Madame Cécile Kassanda, vous êtes à la tête de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, une structure de la présidence de la République. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette structure a été mise en place?
Cette structure répond aux obligations internationales de notre pays. Vous savez, quand on adhère ou on signe où on ratifie un instrument international, il y a toujours des obligations qui en découlent. Pour ce qui est de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, il y a l'obligation de s'adhérer à ces deux protocoles. La RDC avait adhéré aux deux protocoles et après cette adhésion, il y a des obligations qui sont nées. Pour ce qui est du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la première obligation, c'est de mettre en place une structure de coordination de toutes les interventions en matière de traite. Et c'est depuis octobre 2005, que la RDC devait mettre en place cette structure. Mais elle n'a jamais été faite. Ce qui fait que notre pays était classifié au dernier niveau du classement mondial, donc dans la zone rouge qu'on appelle tiers 3. Et à ce niveau, c'est pour ça que vous avez constaté, pendant plusieurs années, la RDC ne pouvait pas avoir des relations de coopération, que ce soit civile ou militaire, commerciale, ou même pour des recherches, avec des pays étrangers. C'est suite à la signature, donc à la création, par ordonnance présidentielle, de l'agence que notre pays a commencé à s'ouvrir encore au monde et avoir des relations bien déterminées de coopération. Donc, voilà pourquoi il était important que le président de la République mette en place cette structure.
Bien, et cette structure a été mise en place depuis, vous avez dit depuis 2005, hein?
Non. La RDC a ratifié la convention et ses deux protocoles en 2005. Mais ce n'est que le 22 avril 2019, donc plus de 15 ans après, que notre pays a pu mettre en place une structure. Donc il fallait que le président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenne la décision de créer l'agence pour que notre pays puisse avoir une coopération bilatérale ou multilatérale avec d'autres pays et puisse obtenir des facilités de la Banque mondiale, puisse avoir les facilités de commerce avec les États-Unis dans le cadre de la GOA, puisse avoir des coopérations militaires avec les États-Unis, la France, la Belgique, l'Égypte et d'autres pays qui nous viennent en aide sur le plan militaire.
Aujourd'hui, donc, Madame Cécile, la RDC occupe quel niveau de classement au niveau mondial par rapport à la traite des personnes?
Nous sommes au niveau 2, donc tiers 2, donc le niveau intermédiaire. Donc, c'est depuis l'année passée que nous sommes montés au niveau tiers 2.
Donc cela veut dire qu'il y a des efforts qui sont déjà fournis pour lutter contre le phénomène en question.
Il y a les efforts qui sont fournis, qui ont permis que la République démocratique du Congo quitte ce niveau-là, le niveau bas, donc le niveau 3. Et ces efforts, le premier effort, c'est la création de l'agence. Le deuxième, c'est la dotation du pays d'un plan stratégique. Le troisième, c'est de disposer d'un projet de loi qui va être voté incessamment dès qu'il arrive au niveau du Parlement. Et le quatrième, c'est d'avoir fait des rapports, puisque depuis 2005 à 2019, il n'y avait aucun rapport sur la situation de la traite en RDC. Mais depuis que l'agence est en place, on a déjà produit deux rapports qu'on a transmis aux organes chargés d'examiner la situation des traites sur le plan mondial. Et ces organes, c'est le Comité droits de l'homme des Nations Unies et le Département d'État américain.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de la traite des personnes, comment lutter contre ce phénomène. Nous avons en ligne Safari depuis Gabarrière et héritier de Bounia. Safari, bonjour.
Oui, bonjour à vous, monsieur. Je vous dis bonjour à madame l'éditeur. J'aimerais raconter une histoire qui se passe dans le monde d'ailleurs, le monde de chez les Blancs, je dirais. Et on a certains de nos frères qui sont chez les Blancs là-bas. Les uns disent qu'ils vivent Dieu. Alors les autres nous racontent des histoires, soit à dire ça, que les Blancs les traitent, les maltraitent. De quelle façon? Il y a quelqu'un qui nous a raconté, il a dit que chez les Blancs, vous travaillez trop dur. On vous paye, oui, mais vous travaillez trop dur. Les jours où vous tombez malade, par exemple, on vous dit, et vous partez demander, par exemple, qu'on vous libère, qu'on vous laisse paix libre. Alors là, on vous dit que non, vous êtes mal poli, vous manquez de respect au patron et on coupe votre salaire. Donc, cette façon d'agir, moi, je ne sais pas si comment madame Lévité va le classer, mais la question est de savoir, malgré qu'on vous paye bien, mais le patron vous travaille sous une condition qui est vraiment dure. Est-ce que cela aussi se classe parmi les traites, disons l'esclavagisme moderne alors?
Donc vous travaillez quelque part, on vous paye, mais vous travaillez dans des mauvaises conditions.
Voilà, c'est ça, oui.
D'accord, merci. Héritier, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour encore à l'invité, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre question par rapport à la traite des personnes?
Je voudrais savoir si les étrangers, les Congolais qui sont à l'étranger, s'ils recevraient là des actes là, des criminels là, qu'on vient de nous dire là, comment le gouvernement faire sera que ces personnes ont été maltraitées ou bien ils sont soumis à une traite malveillante. Comment le gouvernement de notre pays saura que ces personnes-là ont subi des actes criminels?
Par exemple, comment le gouvernement peut savoir si des jeunes filles congolaises se retrouvent au Maroc ou en Égypte comme esclaves sexuelles?
Oui, c'est ça ce que je voudrais savoir.
D'accord.
La deuxième question, je voudrais savoir, parce qu'il semblerait que les autorités de ce pays sont au-dessus de la loi. Alors, vous allez voir dans les plus bas des cas que ce sont les autorités de quelques individus qui font de tels actes. Alors, lorsque on dit que j'irai travailler quelque part, et en arrivant là où je vais travailler, il y a d'autres choses. On me met dans une voiture et on commence à me torturer. Alors, quelles sont les sanctions réservées aux personnes qui seraient impliquées dans de tels actes? Parce que moi qui cherche un travail, moi je pense que j'irai travailler. Mais en arrivant là où j'irai travailler, il y a d'autres choses que je rencontre. Alors, quelles sont les sanctions qui sont réservées? Une autre question. Moi qui ai subi de tels actes, pour chez qui j'irai demander le secours? Auprès de qui j'irai demander le secours? Mais on m'a ou même nous n'avons pas un numéro 20. Après avoir subi de tels actes, je veux savoir subi de tels actes. Avec quel numéro je vais appeler pour qu'on puisse faire la justice.
Bien. Merci, héritier de Bounia. Nous disons également merci à tous les internautes qui ont réagi sur la page Facebook d'Okapi Service. Je vais lire quelques réactions. Claude Kibukila nous dit « Pour contrer ces problèmes, ces phénomènes, il suffit juste que l'État congolais prenne ses responsabilités. » Aider les jeunes dans la création d'emplois. La jeunesse n'est pas bien encadrée, malheureusement, dans notre pays. Il y a de nombreux jeunes qui ont fini, il y a des années, l'université, mais qui chôment à la maison par manque de travail. La majorité des personnes qui sont victimes de ces actes sont des jeunes qui n'ont pas de travail. Voilà, c'est ce que nous dit Claude Kibukila sur Facebook. Jean-Pierre Passois, depuis Mikalaï, au Kassai Central. Pour contrer ces phénomènes dans notre pays, c'est la responsabilité du ministère de l'Intérieur, car c'est lui qui a le mot pour instruire la DGM et l'ANR à traquer tous ces gens qui s'adonnent à la traite des personnes et ils peuvent démanteler les réseaux des malfaiteurs qui travaillent dans ces secteurs-là. Madame Cécile, à vous la parole. Madame Cécile, vous avez la parole.
Merci beaucoup. À la première question sur comment les autorités peuvent savoir que nos compatriotes qui sont à l'étranger sont victimes de l'exploitation, nous demandons à ceux qui sont au courant d'informer l'agence. Et à l'étranger, nous avons des missions diplomatiques et des missions consulaires. C'est à ces missions-là qu'il faut s'adresser. Que les personnes qui sont à l'étranger, victimes de traite de personnes, contactent nos ambassades et nos consulats. La nouvelle parviendra et nous mettrons tout en œuvre. Puisque l'agence travaille pas en vase clos, mais avec toute une commission technique qui représente tous les services intervenant dans le domaine de la traite de personnes. On a demandé le numéro de téléphone.
Un numéro vert.
Nous allons avoir un numéro vert d'ici peu, puisque les démarches sont en cours. Nous avons déjà le numéro court. Nous attendons que le matériel de téléphonie arrive pour pouvoir lancer notre ligne verte. Mais dans l'entretemps, ils peuvent utiliser ces numéros. 084 74 ou 74 54 218. Je répète, 084 74
54-218.
Voilà, c'est le numéro par lequel on peut appeler pour dénoncer tout cas de traite
de personnes. Oui, on peut atteindre l'agence et recevoir quelques orientations.
Bien, Safari, depuis Gabarrière, nous dit il travaille quelque part où il est payé, mais l'employeur le fait travailler dans des mauvaises conditions. Et il veut savoir s'il s'agit aussi de la traite des personnes.
Son cas est à la moitié traite des personnes et travaille donc traitement inhumain. Puisqu'il dit que on le maltraite et qu'il travaille dans de mauvaises conditions. Mmh. Donc, pour qu'une situation soit qualifiée de traite des personnes, nous devons faire ressortir l'élément exploitation de la personne. Donc, on demandera à ces messieurs d'appeler au numéro que je viens de donner pour de plus amples explications.
Voilà.
Puisque le temps d'antenne n'étant pas assez long, on peut toujours être disponible pour lui expliquer ce qu'il doit faire.
Héritier de Bounia nous dit qu'il peut y arriver qu'il y ait des autorités qui sont impliquées dans la traite des personnes, qui ont organisé des réseaux, des gens qui enlèvent les enfants pour, par exemple, aller vendre, retirer le cœur, les tuer et vendre certains organes du corps, ou bien exploiter sexuellement les enfants. Alors comment est-ce que, si vous tombez sur ces genres de cas, y a-t-il déjà des sanctions, d'autant plus qu'on n'a pas encore une loi qui réprimande ces phénomènes?
Bon, la première des choses, il faut que ce monsieur héritier sache que devant la loi, tout le monde est égal. Donc, tous sont égaux devant la loi. Il n'y a pas d'exception. Si la personne qui fait des enlèvements en vue de vente d'organes est une autorité, la loi ne va pas l'épargner. Même en l'absence de la loi spécifique sur la traite, il y a des dispositions du code pénal qui répriment. Donc, il faut dénoncer en donnant toutes les informations à l'agence et l'agence va agir. C'est tout ce que je peux demander à M. Héritier de Bounia.
Bien, Willy nous a écrit depuis Kananga. Il dit l'État congolais doit prendre ses responsabilités en mettant des agents secrets auprès de toutes les fondations, ONG à caractère social, ou bien créer un site d'espionnage pour bien s'enquérir de ce que font ces structures-là. Ils peuvent nous dire qu'ils sont en train de faire telles activités, mais en dessous, ils s'adonnent à des activités de traite des personnes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Willy de Kananga?
Bon, je peux dire à Willy que au niveau de la commission technique restreinte de l'agence, il y a les agents de services de renseignement qui font déjà ce travail-là. Donc, il peut s'apesantir. S'il a une information, il n'a qu'à dénoncer et le travail sera fait. Mais les services de renseignement travaillent avec l'agence.
Bien, on va donner la parole à Kachai de Kanyuka. Bonjour Kachai.
Monsieur Jody Daniel Kachama et bonjour à Madame Cécile Metakasanda.
On vous écoute, Kachai.
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Je suis encore ravi aujourd'hui d'entendre la voix de Madame Cécile. Je voulais commencer d'abord par réitérer les problèmes que j'avais posés cette fois-là, avant de continuer avec le cas récent que j'ai connu encore ici à Kanyoka. Qu'il vous soit rappelé que M. Jody, le cas qui s'était passé ici à Kanyoka, d'enlèvement de jeunes filles recrutées dans un groupe, les soi-disant un groupe religieux, par une étrangère qui était venue d'ailleurs. Alors, elle a recruté ces jeunes filles-là pour qu'elles deviennent des religieuses. Les filles sont parties à Kinshasa. Elles ont quitté Kanyoka pour Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, les enfants de cette soi-disant religieuse étrangère sont venus à Kinshasa la chercher. Parce qu'il se peut qu'elle était une femme mariée. Mais lorsqu'elle est venue ici en religieuse femme blanche, on a cru qu'elle était vraiment une sœur religieuse.
Elle avait recruté combien de filles, hein, de Kanyuka?
Monsieur Jody, à peu près 10 filles. Parce que j'avais posé ce problème la fois passée. 10 filles de Kanyuka recrutées dans un groupe religieux par cette étrangère-là. Alors, vous savez, surtout quand vous vivez au village, vous voyez cela, c'est une grâce. Hein? Vous n'avez jamais été dans l'avion, vous entrez gratuitement dans l'avion, non à vos frais. Vous êtes nourri à Kinshasa, vous n'avez jamais été à Kinshasa. Et puis, c'est une grâce. Et les parents étaient très contents parce que leurs filles doivent voyager et entrer aussi dans l'avion. Monsieur Jody, quand les filles sont arrivées à Kinshasa, ils ont connu des périodes de vaches maigres. Parce que la femme doit être récupérée par ses propres enfants qui étaient venus de l'Europe. Hein? Alors, maintenant, ils ont dit que elle était femme religieuse ou soit une femme mariée. Bon, dans ce cas-là, la femme est rentrée à Kinshasa, mais les filles étaient obligées de partir ailleurs. Elles s'étaient retrouvées à Butembo, j'avais dit ça. Elles s'étaient retrouvées à Butembo.
Et à Butembo, là-bas, on les exploitait sexuellement.
On les exploitait sexuellement. Comment nous avons su cela? C'est lorsque deux d'entre elles ont fui. Elles sont revenues ici. L'une est déjà prise en mariage, elle est à Chikapa pour le moment. L'autre est ici à Kanyuka. Alors
parlez-nous, parlez-nous du cas récent. Vous avez parlé d'un autre cas récent là.
Oui, le cas récent, c'est le cas de Debon. Je ne sais pas si c'est une stratégie qui est montée ici à Kanyuka, mais c'est jeudi. Beaucoup d'hommes profitent de la faiblesse de leurs femmes pour commencer à utiliser les bonnes, leurs domestiques. Monsieur Jody, les deux bonnes ont été enlevées jusqu'ici, on ne connaît même pas là où elles sont, par leur maître, le chef, le patron. Pourquoi? Parce qu'elles travaillaient. Elles faisaient les travaux ménagers. Elles sont parties. Alors qu'elles étaient aussi mariées. Jusqu'ici, on ne connaît pas là où elle se trouve. C'est pourquoi je voulais demander à madame. Tous les restaurants, tous les bars, tous ceux qui utilisent les jeunes filles dans des maisons de tolérance, esclavage sexuel et consorts, est-ce qu'elle ne peut pas mener un plaidoyer auprès du ministre de la Justice, ministre du Genre, Famille et Enfants, pour que ces deux ministères-là puissent mettre en œuvre certains mécanismes pouvant décourager l'utilisation des jeunes filles et aussi le travail des bonnes. On peut bien réglementer ce travail-là. Parce qu'une femme mariée, mais qui se laisse à la merci d'autres pour trouver quelque chose à manger avec sa famille aussi, alors par la suite, elle se retrouve entre les mains de quiconque. Parce qu'on lui paye 10 dollars. Et parfois, c'est 10 dollars, 10 000 francs, ici même 15 000 francs. Alors vous comprenez un peu ça. Pour un mois, vous payez 15 000 francs à quelqu'un. Et si cette femme-là n'a pas de possibilité et vous lui proposez 100 000 francs au lieu de 15 000 que vous lui donnez mensuellement, pensez-vous que même si elle était l'ange tombé du ciel, elle allait refuser, résister à cela? Alors voilà, en quelque sorte, ce que je voulais présenter à madame.
Si merci Kadjaï.
Elle peut trouver d'autres idées.
D'accord. On va donner la parole à Omer depuis Ariwara. Bonjour Omer.
Bonjour Monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre question? Quelle est votre question Omer?
Bon, Monsieur Jody, le sujet est vraiment intéressant par rapport à sa thématique. Je voudrais taxer ce problème concernant par exemple la pauvreté. Il y a des gens qui partent, selon leur situation qu'ils vivent, qui partent chercher l'emploi. Ils vont aller se retrouver devant des situations de traite. Alors, il n'y aura pas de choix. Il y a un deuxième problème.
Omer, est-ce qu'il y a
des autorités?
Oui? Il y a déjà eu des cas de traite là-bas, à Ariwara?
Bon, je voudrais vous donner un exemple. Il y a dans le cadre du commerce transfrontalier ici.
Avec l'Ouganda.
À notre chef. Oui, il y avait un sujet ougandais qui avait pris une fille comme vendeuse de boissons dans un Ouganda. Ce monsieur-là l'exploitait sexuellement. Bon. À un moment donné, la fille est tombée à cette. Le monsieur a demandé à cette fille-là de provoquer l'avortement. Effectivement, l'avortement s'est provoqué. Et le parent l'a amené devant le tribunal coutumier. Ce qui avait eu comme résultat, on avait fait ceci. On a essayé d'auditionner ces deux parties. Le monsieur avait financé la fille là avec l'argent, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Hein. Mmh. Une dame chargée déjà femme et famille l'a retirée à côté et a dit que si c'est, ça n'est le cas, la fille ne veut pas accepter le problème, on va faire des cérémonies coutumières. Hein. La fille va en durer la conséquence. C'est ici que lorsqu'elles ont fait des retraits, la dame l'a auditionné, hein. La fille a avoué ceci qu'on avait, fait le tribunal coutumier. Après, on a transféré au niveau de la police parce que là, il s'agit de l'harcèlement sexuel.
D'accord, Omer. Alors, quelle est la question?
Le cas est vraiment récurrent.
Voilà, il y a des cas récurrents là-bas à Riwara. Merci beaucoup. On va donner la parole à Charles de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la traite des personnes, Charles?
Oui, sur la traite des personnes, monsieur Jody. Jadis, si c'était connu que la traite des personnes s'est portée à l'aise entre les supérieurs avec les inférieurs, tout comme entre les démunis ainsi que les personnes quand même riches, ou soit les personnes conscientes et les personnes inconscientes. Mais depuis un temps, nous remarquons que dans ce pays-ci, même les personnes les plus conscientes, elles sont aussi maltraitées. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Quand nous voyons, par exemple, les jeunes gens qu'on appelle contre les soulèvements, les mécontentements politiciens, c'est toujours les jeunes qui sont majeurs. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette maltraitance-là humaine? C'est ce que nous voulons un peu savoir, parce qu'ils sont quand même conscients, ils sont quand même majeurs à dire...
Oui, Charles, l'invité a dit la traite des personnes, c'est lorsqu'on utilise les autres pour à des fins pécuniaires, pour gagner de l'argent. On vous utilise, par exemple, il y a Madame Cécile a parlé du recrutement des jeunes dans les groupes armés, les enfants dans les mines, la mendicité forcée, le travail forcé, mariage forcé, prostitution, tout ça, enlèvement des enfants, vente d'organes, etc.
Mais, M. Jordi, à ce qui concerne l'utilisation des jeunes gens pour se soulever contre un mécontentement d'une décision judiciaire ou soit avec son adversaire politicien, alors on ne sait pas comment on peut aussi qualifier cela. Est-ce que ce n'est pas aussi une maltraitance humaine?
Bien, merci. Madame Cécile, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je commence par le dernier. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a une confusion. Il y a une confusion entre les notions de la traite et ce qu'il dit.
La manipulation politicienne.
La manipulation politicienne. Donc, la manipulation politicienne n'est pas une forme de traite. Pour la personne qui a parlé à Riwara de la jeune fille séquestrée, enceinte, et puis on lui a fait avorter, là, il y a eu vraiment un cas de traite. Mais c'est la procédure qui a été suivie, qui est un peu biaisée, puisqu'ils sont allés dans les considérations coutumières. Il fallait, quand il y a un cas de traite, nous recommandons que les gens aillent directement voir l'autorité la plus proche, l'autorité compétente. Il y a la police. On devait commencer par la police. On allait auditionner le propriétaire d'Inganda ou de je ne sais quelle boutique.
Oui, quelqu'un a parlé de, par exemple, dans les bars, les bistrots, il y a des gens qui emploient les jeunes filles pour servir et elles sont habillées légèrement. Et si un client veut coucher avec elle, ben voilà, c'est parti et c'est le propriétaire du Nganda qui empoche l'argent. Et il s'agit des cas de traite de personnes.
Là, c'est un cas de traite, donc exploitation de la prostitution d'autrui. Puisque quand on exploite la prostitution de quelqu'un d'autre, c'est celui qui l'utilise, qui perçoit l'argent. Donc, c'est un cas de traite qu'il faut dénoncer.
Voilà, un cas qu'il faut dénoncer. Omer a parlé aussi de la pauvreté. Il dit que c'est la pauvreté, généralement, qui pousse les jeunes filles à devenir victimes de cela. Et puis, Kachaya a rappelé ce qui s'était passé là-bas à Kanyuka. Quelle est votre réaction par rapport à cela?
Bon, la pauvreté, c'est une des causes de l'exploitation, puisque la personne n'a pas de moyens, on l'amène, elle fait tout ce qu'elle fait, et son acceptation n'empêche pas l'existence de la traite des personnes. Pour ce qui est de la situation à Kanyuka, je me rappelle que Kachai en avait parlé. On devait organiser une mission dans la ville de Kananga, comme Kanyuka c'est dans les environs. On n'a pas pu organiser cette mission-là à cause de la pandémie et qui nous contraint à nous cloîtrer dans la ville de Kinshasa. Mais que Kachai se tranquillise. Je vais le recontacter. Je sais qu'il a mon numéro pour que nous puissions avoir des informations, de plus amples informations.
Bien. Merci à tous les internautes. Il y a beaucoup de réactions sur Facebook. Je vais lire quelques-unes. Héritier Wamenga, depuis Kisangani, nous dit cette situation est sérieuse en RDC, surtout avec les associations mafieuses des bourses qui amènent les gens à l'étranger dans le cadre des promesses d'études ou d'emploi. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'État doit avoir un droit de regard sur la criminalité et d'autres formes de crimes orchestrés dans les réseaux sociaux. Voilà, il y a des structures qui viennent ici, qui recrutent les jeunes pour aller, qui vous disent, qui prétendent accorder des bourses ou qui vous aident à aller étudier à l'étranger, au Maroc ou ailleurs. Mais vous arrivez là-bas, c'est la réalité est tout autre. Madame Cécile.
Oui, cette situation, nous la connaissons. On sait qu'il y a un réseau qui recrute les jeunes gens sous forme de boursiers et qui les amène à Chypre. Les enquêtes sont en cours, donc on ne peut pas en parler.
Bien, on va accueillir Basile de Kananga. Bonjour. Basile, vous êtes en ligne depuis Kananga. Bonjour. Basile n'est pas encore en ligne. Ingénieur Rodriguez Mbouania, depuis Mbujimaï, dit, à mon avis, cette pratique d'après lui, l'État congolais doit créer des emplois pour les jeunes. Les parents sont aussi responsables du fait qu'ici, dans les milieux urbains, d'autres parents encouragent ces pratiques parce que demain, leur fille ou fils aura une bonne vie, déjà à l'étranger, après ses souvenirs d'aider ses parents. Par manque d'une bonne conscience patriotique, beaucoup souhaitent aimer le pays développé pour garantir. Bon, c'est pas très clair là à la fin. Et bien Zambi, depuis Kananga, l'État congolais lui-même est auteur et organisateur de cette traite de personnes ou esclavage moderne. Un huissier de l'État touche quel salaire avec un taux de 2400 francs congolais? Alors, qu'est-ce qui pousse ces enfants et femmes à adhérer à cette traite? C'est à cause du manque de quoi vivre? C'est à cause du mauvais traitement que l'État congolais les inflige? Bon, c'est son point de vue. On va accueillir Alphonse depuis Ingbokolo, en Ituri. Alphonse, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre question?
Jody, vraiment, j'avais beaucoup de questions à poser. Heureusement que les amis, les concitoyens ont déjà posé presque toutes mes questions. Mais je vais donner, c'est pas si je vais appeler ça un témoignage. C'est-à-dire, chez nous, il y avait un système de personnes qui viennent donc extraire les parties intimes des êtres humains.
Oui.
Alors, maintenant, quand il y a des situations pareilles qui arrivent, la population d'un village donné veut dénoncer ou, par exemple, pourchasse un de ces malfaiteurs-là. Maintenant, quand on arrive, par exemple, on met la main sur celui-là, on l'amène au niveau du service de l'État. Maintenant, ce service-là demande des preuves. Alors là, la population est déjà bloquée. Maintenant, je ne sais pas comment on fera pour qu'on arrive quand même à arrêter des situations pareilles. Ça, c'est
Alphonse,
tellement inconstant.
Alphonse.
Ces systèmes-là, on l'a appelé chez nous Kourouza. Kourouza, vraiment, ça fait peur, là.
Oui. Alphonse, puis, dites-nous, c'est comment chose, Alphonse.
Je dis, ma question, c'est, il y a l'invité a parlé de travail forcé. Le travail forcé, chez nous, donc, les enfants, on dit que la manière de les éduquer à travailler, à devenir responsables. Déjà à partir d'une dizaine d'années, il faut que les enfants fassent les chats, par exemple, qu'ils parlent peut-être les animaux, de manière forcée, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus responsables dès le bas âge. Chez nous, c'est vraiment l'éducation. Je ne sais pas si quelle est la différence maintenant entre éduquer l'enfant et le travail forcé. Parce que chez nous, des fois, il arrive que si vous n'avez pas réalisé ce travail, là, on vous sanctionne, on vous prive, par exemple, de manger, et maintenant, l'enfant se retrouve par la suite. Voilà la nuance entre le travail forcé et l'éducation.
Alphonse, vous avez dit à Ngokolo, il y a des gens qui viennent pour prendre les parties intimes des gens. Après les avoir tués, comment ça se passe concrètement? C'est quoi le mode opératoire?
Donc, chez nous, à un moment donné, ça fait presque plus d'une année maintenant, donc des personnes qui étaient soupçonnées de venir chercher les organes humains. Alors, c'est-à-dire, ce qu'ils font, c'est cacher quelque part, quand les filles, par exemple, au niveau des poids d'eau, surtout dans la soirée, là, alors, par exemple, les jeunes filles viennent, alors, ces gens-là vont les pourchasser de manière à mettre la main sur ces jeunes-là. Et une famille la main, nous l'avons appris, mais malheureusement, nous n'avons pas vu que telle, on lui a arraché la tête, on lui a arraché le sexe, par exemple, mais beaucoup de gens ont parlé. Alors, dès qu'ils mettent la main sur vous, là, ils vont prendre ce qui les intéresse et ils partent. C'est comme ça que ça se faisait chez nous ici.
Merci, merci Alphonse. Madame Cécile.
Oui. Monsieur Alphonse a parlé de l'éducation des enfants de le bas âge au travail, pour les initier au travail. L'initiation au travail s'est faite partout, puisque même à la maison, en ville, on initie les enfants à faire la vaisselle, à balayer et à faire le lit ou à laver la vaisselle ou les habits. Une initiation n'est pas mauvaise. Mais en faisant l'initiation, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant. Vous ne pouvez pas charger un petit enfant d'aller faire le chant. Lui donner une étendue qu'il doit cultiver. Non. Apprenez à l'enfant le travail. C'est pas le forcer à faire un travail qui n'est pas de son âge. Puisque là, vous tombez dans les pires formes de travail pour l'enfant, qui est réprimé par notre loi. Il faut montrer un petit travail à l'enfant. Mais là où nous parlons des travaux forcés, c'est quand vous faites travailler quelqu'un sans rémunération. Là, c'est un travail forcé et dans de mauvaises conditions.
Voilà, il y a aussi cette question des organes génitaux, des gens qui viennent dans la ville pour prendre les organes génitaux, c'est un cas de traite des personnes.
Là, ce sont des cas de traite des personnes, puisqu'on enlève la personne dans le but d'aller prendre les organes, et ces organes-là, on va les vendre.
Bien, Fabien,
c'est un cas de traite.
Un cas de traite. Fabien, on va terminer avec la question. Fabien de Kindu nous dit les enfants orphelins sont de plus en plus victimes de l'esclavage moderne. Il y a ces gens-là qui recrutent, qui les recrutent, qui recrutent les enfants qui n'ont pas de responsables, et puis ils vont amener tous ces enfants dans une maison, puis commencer à leur donner de la nourriture, et après ils vont les utiliser dans des travaux lourds et pénibles, voire même champêtres, sans salaire, et ils leur nourrissent tout simplement, ou soit ils envoient ces enfants dans la ville pour voler, et puis les enfants rapportent l'argent à leur à ce monsieur-là. Donc, mais ils déplorent l'irresponsabilité de certains parents. C'est aussi un facteur qui favorise l'esclavage moderne, parce que certains enfants dont les parents sont irresponsables sont exposés à ces phénomènes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Fabien de Kindu?
Bon, j'ai dit à Fabien que cette situation-là, c'est un cas de traite véritable, puisqu'il y a l'exploitation à outrance, donc une grande exploitation des enfants. Et le revenu du travail que les enfants font ne leur revient pas. Ça revient à celui qui les a recrutés. Cette personne profite de la vulnérabilité de ces enfants-là et de la pauvreté de leur famille pour pouvoir les utiliser. Ce qu'il doit faire, c'est saisir l'autorité ou appeler au numéro de téléphone que j'ai donné.
Vous pouvez rappeler encore le numéro, Madame Cécile?
Oui, je rappelle le numéro. C'est 084 74 54 218.
Bien, 084 74 54 218, appelez à ces numéros pour dénoncer tout cas de traite de personnes. Madame Cécile Metakasanda, je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Jean-Noël Mokondo a assuré la mise en onde. Tati Mapoukou a été à la coordination et à la réalisation. Micro Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.